Ici, la magie passe par une aiguille. Effectivement, ça fait désormais 23 ans que Christophe Leclerc prend le soin de tatouer. Japonais, punk ou encore gothique, rien n'échappe à son style. Aujourd'hui, à Aiguille Magique 2, Christophe revient sur le tatouage polynésien, mais aussi sur son expérience en tant que tatoueur qui commence en musique.
La musique, beaucoup. À l'époque, y avait quand même pas mal de groupes très tatoués. Et à l'âge de 15 ans, j'écoutais pas mal de reggae, tout ça, et aussi pas mal de punk, qui à l'époque avait quand même assez de... Dans la région, c'était assez... Il y avait pas mal de concerts, ce genre de choses. Et à force de faire des concerts, de voir des mecs tatoués, j'avais envie tout simplement de leur ressembler.
Du coup, c'est toute cette diversité qui vous a donné envie d'expérimenter.
Ouais, carrément, c'est vraiment dans le milieu rock'n'roll, psychobilly, punk, toutes ces choses. Dans la région, je traînais pas mal sur l'île. Donc de tous ces concerts, je dessinais déjà beaucoup à côté. À l'époque, on redessinait les pochettes d'albums sur les vestes en jean, quoi, histoire d'avoir une petite trace et puis d'être un peu sortir du lot, je dirais. Et puis tout doucement, je me suis intéressé de plus en plus aux Polynésiens, de par mon côté zen, tranquille, et aussi ce côté nature. Je fais beaucoup de surf aussi. Et du coup, je crois que tout ça, mis bout à bout, a fait que le Polynésien est arrivé naturellement.
Puisque vous avez commencé à le citer, est-ce que vous pouvez nous faire une simple description de l'origine des tatouages polynésiens ?
Moi, je sais que dans les années 70, le tatouage est revenu un peu en force en Polynésie, qui avait été interdit à l'époque pendant pas mal d'années, pour justement attirer du tourisme et toutes ces choses. Et du coup, là, la génération 70-80 a vraiment remis le nez dans les anciens motifs pour le remettre au goût du jour. Et au jour d'aujourd'hui, on voit que ça en Polynésie. Alors ça a été pour les anciens, ils faisaient ça en cachette, quoi, je dirais, dans les années 60-70. Et puis finalement, maintenant, y a plein de boutiques qui ont pignon sur rue parce qu'ils sont plutôt fiers de leurs origines et de revoir que le tatou revient chez les jeunes d'aujourd'hui.
Comment c'est arrivé le tatouage polynésien dans votre business ?
Moi, tout simplement, je m'y retrouvais plus dans ces motifs qui ont pour moi une signification, un sens et aussi une histoire. Donc dans le tatou, il y a le japonais et toutes ces choses, le old school, le polynésien, le tribal, maori, et toutes ces choses qui ont tout le temps été là au niveau culturel dans le tatou et qui ne bougeront jamais, qui sont intemporelles.
Est-ce que vous avez déjà voyagé en Polynésie ou est-ce que vous allez le faire pour approfondir votre culture sur le tatouage ?
Non, justement, j'y suis allé pendant un mois, il y a 4 ans, et je compte y retourner parce que je travaille avec des Polynésiens depuis une quinzaine d'années. Ma première rencontre, c'était chez Nels Tattoo à Douai avec Émile, qui est aujourd'hui, paix à son âme, décédé, mais qui a vraiment contribué à ce que je m'intéresse vraiment à ce genre de motifs, de par cette rencontre. Et depuis ce temps, j'ai toujours essayé de choper un maximum de documentation sur les motifs et les rencontres que j'ai pu faire en convention avec des Polynésiens qui sont devenus des amis, qui viennent à la maison régulièrement. Tous les 3-4 mois, j'ai un Tahitien qui vient à la maison, toujours des potes que j'ai une dizaine de quinzaine de potes qui tournent et qui viennent régulièrement à la boutique, qui bossent pendant 15 jours et on échange tous les soirs par des nouveaux motifs et puis aussi d'approfondir toujours ma connaissance dans les motifs pour pouvoir proposer des tatouages uniques à chaque personne qui vient de chez moi avec des motifs qui vont représenter la personne. Donc je parle de motifs qui vont représenter la personne, c'est de par des motifs qui vont représenter sa famille, des valeurs et toutes ces choses, s'il y a eu des décès ou autre, peu importe, on peut raconter une histoire.
Quand vous tatouez, vous proposez un style traditionnel ou vous n'avez pas peur d'aller dans la modernité un petit peu ?
Plutôt traditionnel, je mixe les deux je dirais. Donc ce côté traditionnel qu'on retrouvait avant chez les anciens, le tepatutiki comme on dit. Et après, je mets du polynésien moderne avec justement ces motifs plutôt avec une bonne partie ombrage. Donc beaucoup de motifs inspirés de la nature, donc les feuilles de bananier ou autres, ou même les os de baleine, ce genre de choses qui en Polynésie, l'inspiration vient de tout ce qu'on voit autour de nous en fait. Donc moi, mes potes, quand j'étais là-bas, m'expliquaient bien que tel motif représentait telle chose et quelquefois j'étais même surpris de voir moi à quoi ça ressemblait à la base leur inspiration. Mais ça s'associe très bien. Et au niveau de l'équilibre, je dirais, entre ce travail d'ombrage et de noir classique, le rendu est vraiment top, quoi. En fonction de l'endroit du corps où je vais le faire, tout simplement.
Est-ce que vous comptez le mettre en avant, cet exercice du tatouage polynésien ? Parce que si on observe les avis, ils sont très positifs, surtout quand ça parle des tatouages polynésiens. Donc est-ce que vous allez le mettre en avant ?
J'ai eu beaucoup de mal à le mettre en avant, parce que je voulais pas qu'on me mette dans cette case du mec, le petit blanc qui habite dans le nord de la France et qui pique les motifs des Polynésiens. Mais en fait, finalement, avec les années qui ont passé, de par mes rencontres, tous mes potes de Polynésie justement me disent que comme je le fais bien, justement j'ai le mérite de peut-être le mettre un peu plus en avant, chose que je faisais pas avant parce que j'étais un peu gêné par tout ça, sans plus le mettre en avant. Que là maintenant j'ai pris conscience de la qualité de mon travail, je dirais, par rapport à quelques personnes qui quelquefois se lancent là-dedans et qui ne devraient pas. Et ici dans la région Nord-Pas-de-Calais, on n'est pas énorme, on doit être allé à tout. Une petite dizaine à peine, avec un bon équilibre, des bons motifs et aussi des gens qui connaissent, qui savent ce qu'ils font. Pas juste prendre 500 balles pour dire de prendre 500 balles, quoi.
Et du coup, c'est vraiment toute cette expérience et le fait que ça se démocratise un peu plus, qu'on voit une certaine hausse des tatouages polynésiens un peu partout en France, par rapport vraiment sur le fait qu'on voit de plus en plus de motifs.
Ça a toujours été au niveau culturel. Maintenant, après, ça marche peut-être un peu plus. Plus on en fait, plus ça va être visuellement vu aussi par les autres automatiquement. Donc on a aussi un retour. Alors il y a des gens qui, quelquefois, n'étaient pas trop polynésiens. Donc en voyant l'autre avec une belle pièce, moi, ça les attire un peu. Ils se disent, oh, tiens, finalement, le polynésien, c'est quand même cool. Alors bon, on a essayé, il y a des tatouages de mode, hein, je dirais, mais chaque personne qui a un tatou critique l'autre que quelque part un petit peu, mais ça fait partie un peu de cette culture française, je dirais, à se sentir un peu plus fort que les autres et mieux aussi que les autres. Voilà, c'est pas un tatouage à la mode. Pour moi, le polynésien, clairement, c'est vraiment quelque chose qui raconte une histoire et qui colle avec la personne. Et après, on en fait ce qu'on en veut aussi, hein, quelque part un peu.
Et petite question bonus, du coup, c'est parce que moi, de mon point de vue, je trouve qu'on voit de plus en plus de tatoueurs, donc est-ce que vous pourriez un petit peu en parler? Est-ce que vous trouvez que vous, il y a une multiplication des tatoueurs?
L'explication, elle est toute simple. C'est juste que moi, quand j'ai connu le milieu du tatou, quand j'ai démarré, en fait, il fallait être sélectionné par le tatoueur qui allait nous prendre en apprentissage pendant au moins une durée minimum de 3 ans. Le matériel était limité aux professionnels, donc ce qui limitait certainement le nombre de personnes à vouloir se lancer, tout bêtement. Et automatiquement, on prenait conscience quand même de la difficulté de pouvoir rentrer dans un shop de tatou. En tout cas pour ma part, dans les années 2000, il y avait très peu de shops. Et les seuls qui nous prenaient, franchement, on était plutôt carrés et sérieux et investis dans ce qu'on faisait. Et on profitait de l'expérience du tatoueur en lui-même qui était déjà là depuis en général une bonne vingtaine d'années. Et le fait de devoir attendre pendant un petit moment, c'est un peu un mérite. Un peu de toutes ces choses, la difficulté d'avoir du matériel de tatou. Moi j'ai été obligé de passer par un tatoueur qui a bien voulu me commander le matériel un an après avoir passé du temps chez lui. Et quand j'ai eu mon matériel, j'étais tellement fier de pouvoir rentrer dans ce milieu que j'ai pris mon évolution à démarrer de là. Et ça a été 3 bonnes années en fait à galérer, on pourrait dire, jusqu'à ce que je me rende compte que mon niveau était plutôt pas mal et que j'ai aussi des gens autour de moi, des tatoueurs en l'occurrence, qui m'ont dit « c'est bon, là t'es prêt, tu peux y aller ». Et qu'aujourd'hui, en fait, le problème c'est qu'on peut commander le matériel le matin à 11h le jeudi et le vendredi avant midi, le matériel arrive à la maison. Alors j'ai des gens qui me téléphonent quelquefois pour me demander comment ça marche. Comment on monte une machine? Je crois que la première des choses qui était à faire, c'était peut-être au moins déjà de se faire tatouer, avant même de commencer à s'intéresser au tatouage. Commencer à bouger dans les différentes conventions, peut-être aussi se mettre au dessin. En l'occurrence, c'est peut-être pas mal. Une tablette, c'est bien, hein, mais ça reste qu'une tablette. Hein. Donc au niveau de la gestuelle, il n'y a pas tous ces gestes qu'on utilise justement quand on dessine. Et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de tatoueurs qui ont oublié. Maintenant, c'est la facilité de commander du matériel sur Internet, faire 3-4 tatouages, acheter une tablette, présenter des dessins sur une tablette qui sont plutôt propres. Mais souvent, le tatouage, quand il est réalisé, ça ressemble un peu à ce qui était sur la tablette, mais avec pas mal de défauts, quoi. Les défauts, ça va être quoi? Des lignes pas très structurées, pas très propres, un remplissage bof, une peau abîmée. Il y a toutes ces choses en fait, et je crois que c'est vraiment dommage de voir en fait le métier qui est en train de partir un peu en tout cas pour le client, c'est très compliqué d'avoir une sécurité, de rentrer dans un shop, d'être quasiment sûr d'avoir un tatouage propre, en fait, je dirais. Donc nous, on a quelques personnes qui nous ont suivis avec le temps, d'autres qui ont bougé et qui sont revenus en fait, hein, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a des shops qui sont très jolis, mais c'est pas le fait d'avoir une belle déco qui fait que le tatouage sera beau, quoi. Vraiment, là j'ai ma fille qui a 17 ans, qui dessine très bien, qui est née dans la boutique, et qui va commencer son apprentissage là bientôt, et elle sait que ça va partir sur 2-3 ans où elle va galérer. Quand je dis galérer, c'est pas brûler les étapes, hein. Y aller tranquillement, des belles lignes, un beau remplissage, et puis tout doucement passer à l'ombrage, et la couleur on verra plus tard, parce qu'elle est branchée manga, c'est sa génération, donc c'est une fierté pour moi de voir ma fille aussi, surtout qui va se retrouver dans ma boutique. Après j'ai plus grand chose à dire.
Et c'est sur cette bonne humeur communicative que nous vous laissons, mais restez à l'écoute sur Radio PFM, merci de votre écoute.